vous rapprocher de certaines personnes ou les unes des autres? Est-ce qu'il y a eu quelque chose entre vous sur ce projet? Alors je sais pas, c'est, vous êtes... La question n'est pas simple, on a le droit de réfléchir. On a le droit de réfléchir avant de répondre, en fait. On peut le faire, on peut réfléchir avant de répondre, c'est pas un problème.
Salima, ouais. Je peux juste reformuler la question. Est-ce que vous vous êtes senties plus proches les unes des autres grâce aux ateliers et grâce au partage d'expériences les unes avec les autres? Est-ce que vous vous êtes senties plus proches ou pas? Ou pas forcément?
Oui.
Samira, oui.
Oui.
Oui, il y a eu des échanges qui ont dit « Ah, c'est la même chose, on partage la même chose, ou on n'est pas seul avec ces questions ?»
Oui, ça t'est...
Non, mais bah.
Quand on a discuté parfois de sujets un petit peu difficiles ou qu'on n'a juste pas l'habitude de discuter les unes avec les autres, est-ce que vous vous êtes parfois rendu compte, par exemple, que finalement vous n'étiez pas seul à vivre certaines choses ? Par exemple.
Allez-y.
Oui.
Oui, allez-y.
Je pense que à travers les ateliers, on a pu nous comprendre, mieux comprendre aussi entre nous, et de s'identifier, oui, et de partager un peu les mêmes expériences, peut-être même si on ne parle pas souvent. Mais à travers ça, on a découvert ça et c'était très intéressant.
Il y a eu d'autres ateliers. Alors, il y a eu plein de... Oui, pardon, Carida.
À travers IDVET aussi, on a formé une très grande famille. Et nous, on partage ensemble. Et parfois, on a fait tout ensemble grâce à IDVET.
Ça aussi, c'est important de pouvoir partager, échanger. Dans les ateliers... Oui, il n'y a pas de problème. Non, mais alors ça, c'est terrible. Ça fait partie des échanges où c'est les invités qui dirigent. Fatima, si au bout d'un moment, ça suffit, il n'y a pas de problème. Hein. Vous n'êtes pas obligé de répondre à mes questions, bien entendu. Non, moi, je voulais savoir juste, pour terminer, est-ce qu'il y a un moment qui vous aura marqué plus qu'un autre, un petit tour de table? Est-ce qu'il y a un moment que vous garderez en mémoire? Ça peut être un moment d'atelier, ça peut être un moment à côté de l'atelier, ça peut être un moment de repas même, ça peut être... parce que je sais que tout le monde l'a dit, hein, on aime bien manger ici. Mais ça peut être... Est-ce qu'il y a un moment qui vous a marqué durant tout ce projet, un moment que vous gardez, qui vous a peut-être plus marqué qu'un autre? Alors on peut réfléchir, hein, on n'est pas obligé d'être instinctivement directement à répondre. Jennifer, je crois qu'elle avait déjà un truc en tête, non? Je vous ai vu réagir. Non, c'est peut-être que je me trompe. Non, pas encore. Bon, un moment qui a marqué plus qu'un autre, Carida? Non, Fatima? Non, mais ça réfléchit, on peut réfléchir. Hein. Oui. Fatima, Samira. Oui, parce que là, on est sur une fin de projet. Oui, effectivement.
Quand on a fait toutes les photos, on a partagé les moments.
Ah oui. Samira, ouais. Il y a un moment que vous gardez plus en tête, c'est ça?
Oui. On a, à Edivet, on a partagé. La dernière fois, on a fait des photos.
Il y avait un repas, hein, c'est ça?
Oui, un repas. Oui.
C'est le fait de partager un repas tout ensemble.
Oui.
Qui était un moment marquant.
Oui, c'est ça. Même aujourd'hui.
Ah bah oui, là, c'est marquant. Et puis, on n'ose pas lever la tête, mais il y a du monde qui est là sur le projet. Oui. D'autres moments, peut-être, particuliers sur le projet? Eh bien, oui.
Quand on a découvert les photos.
Ouais. Aujourd'hui, c'est ça?
L'exposition.
Vous les avez découvertes aujourd'hui? Non, vous aviez déjà découvertes avant les photos?
Non. C'est aujourd'hui, là.
Aujourd'hui, ça vous a fait quoi de les découvrir?
Pas avant, c'est aujourd'hui.
Ça vous a fait quoi de les découvrir?
Ça fait du bien.
Ça fait du bien, ouais.
Oui.
Vous êtes aussi sur les photos, vous?
Bien sûr.
Voilà. Donc, comme on l'a entendu, il y a eu plusieurs aimants. On aura l'occasion de discuter un peu plus tard dans cette émission avec les animateurs d'ateliers, les artistes de ces ateliers, pour voir comment eux ont mis en place des choses. Dans ces ateliers, moi, comme je le disais tout à l'heure, j'ai laissé traîner un petit peu mon micro. Et il y a un moment particulier qui a été vécu, notamment sur l'atelier dessin. Et je vous propose qu'on l'écoute. On va l'écouter Et en fait, ce qui en extrait, c'est même plus de la bonne humeur, c'est même plus de la, c'est de la rigolade à l'état pur. Normalement, enfin moi quand j'ai monté ce morceau, je rigolais aussi. C'était communicatif. En tout cas, juste avant d'écouter, j'ai remercié Samira, Jenaba, Xochild, Karida et Fatima de bien avoir voulu témoigner avec moi. Et effectivement, vous pouvez les applaudir deux fois plus fort même, parce que vraiment, c'est pas si simple de prendre la parole en public. Merci beaucoup, beaucoup, mesdames, d'avoir donné un petit peu de votre vécu. Je vous propose qu'on écoute tout de suite cette tranche de bonne humeur.
Ok.
Donc ça, c'était un dessin de vous, c'est ça?
Oh oui. Oh, j'aime, merci.
Vous trouvez comment, du coup, un dessin?
Joli. C'est joli.
C'est joli, ouais.
Merci. Merci. Merci de m'avoir dessiné. J'aime. Yeah, mais merci. Avec les petites perles et puis les petits trucs là.
Ah oui. Les grains de beauté.
Ah ouais.
Dis-moi, est-ce que,
oh, c'est est-ce que
ça vous fait quoi de vous voir dessiner?
Ça me fait rire en fait.
Ben oui, je vois ça.
Ok.
Mets-toi
où tu veux. Oui, attends aussi, elle a le petit plaid.
Installe-toi. Elle est pas contente de gagner tout. Ça va
aller toi. Vous
vivez,
je vais montrer ça à ma fille, hein. Elle va aimer.
Ben oui.
Et du coup, mais je sais pas comment il a réussi à faire ça. Avec les pelles qui sont sur ma tête. À ce temps, tu n'as pas aimé ça?
Je râle des fois.
Ah, c'est à ce temps, elle a agité avec
oui,
qui?
Ça, c'est moi. Ça, c'est moi.
Pauline, c'est, tu avais Pauline? Ah, tu voulais rester tout seul? Oui. Bah oui, comme ça, tu peux mettre ça à côté de ton lit.
Ah, c'est ouais. tout le journée.
Ça, moi, je vais mettre ça dans la chambre de mes enfants, ils vont aimer. Ils vont vous dire, Amnata, voyez ta maman, ils ont dessiné ta mère. Merci. Au revoir, la prochaine.
Oh,
Togo avec le titre Yafeli Mali Yami. Ah oui, non, c'est moi qui envoie le jingle. Ben oui, ben d'habitude, c'est, je regarde mon collègue et il l'envoie. Et cette fois, eh ben, c'est moi qui l'envoie.
Principe actif.
Cette petite radio est ce qu'on appelle une radio libre.
Une radio libre est avant tout l'expression de la vie locale et de la population d'un quartier, d'une ville ou d'une minorité.
Principe actif, 95.9, 102.4.
Et nous sommes toujours en direct, en live et en public de la maison de quartier de la Madeleine à l'occasion de cette journée autour de la santé des femmes, sur lequel d'ailleurs, si vous êtes une femme, une jeune femme, une fille, vous pouvez nous rejoindre, bien entendu. Ouais, c'est un peu exclusif là, hein. Les hommes ne sont pas spécifiquement les bienvenus. Je ne sais pas s'il y a un videur qui les mettra dehors s'ils arrivent, mais en tout cas, ils ne sont pas spécifiquement les bienvenus. C'est une journée consacrée aux femmes, aux filles, aux jeunes femmes. L'exposition, vous pouvez venir la visiter avec le plus grand des plaisirs. Et nous attaquons maintenant ce qu'on appelle le plateau des professionnels. Nous avons avec nous autour de la table... Eh ben ça y est, j'arrive même plus à relire mes notes, mais c'est pas grave, j'y allais. Il y a Sabrina qui est sage-femme, il y a Camille qui est médecin, nous avons Marie-Jo du centre santé sexuelle, nous avons Caroline du Caseva et nous avons Margaret du Cégide. Bonjour à vous mesdames.
Bonjour. Bonjour et bonjour à tout le monde.
Ça fait plaisir, merci. Toute première question comme ça, on est aujourd'hui sur une journée destinée aux femmes de manière générale. Aujourd'hui, on a un plateau exclusivement de femmes. Est-ce que dans vos services, ce sont des services très majoritairement féminins ou c'est pour l'occasion que ce sont des équipes féminines qui se sont dépêchées aujourd'hui sur la maison de la Madeleine?
Voilà.
Ah non, elle n'est pas compliquée celle-là. Je commençais par une question simple. Hein. Marie-Jo. Margaret.
En milieu hospitalier, c'est majorité.
C'est majoritairement
des femmes qui travaillent. Donc voilà. Et dans nos services, en effet, on est plus nombreuses à y travailler.
Très bien.
Voilà. Alors, en centre de santé sexuelle qui s'appelait autrefois les centres de planification et d'éducation familiale, ce sont essentiellement des professionnels féminines, du coup. Conseillère conjugale, ça c'est mon métier actuel, mais j'étais sage-femme avant. Et là, c'est essentiellement des femmes, même si on a de plus en plus de sages-femmes masculins.
Des mailloticiens, je fais mon malin parce qu'on en a croisé il n'y a pas longtemps.
Ou un sage-femme aussi.
Un sage-femme, on dit?
Oui, on peut dire un sage-femme. Hein, Sabrina, tu me confirmes, hein,
dire, voilà. Sage-femme.
Donc nous, effectivement, les médecins qui travaillent chez nous en centre de santé sexuelle, maintenant, ce sont surtout aussi des femmes à chaque fois. Et là, nous avons Camille à côté de moi, qui est aussi médecin au centre de santé sexuelle à Évreux. Et donc Camille, c'est un prénom qui est mixte, mais c'est une femme qui est avec nous.
Très bien. Oui, bah, allez-y, je vous en prie. Alors,
nous, au Caseva, c'est pareil, on est en majorité des femmes, mais on a quand même des médecins hommes. Moi, j'ai des médecins légistes et j'ai à peu près 3 ou 4 médecins hommes qui passent. Alors, ce n'est pas toujours les mêmes, mais on est surtout beaucoup de femmes.
Très bien.
Pareil en PMI.
En PMI.
PMI, protection maternelle et infantile, ce qui porte plutôt assez mal son nom d'ailleurs, puisqu'on est plutôt un service de prévention. Et on est quasiment exclusivement des femmes à exercer, donc puéricultrice, une médecin d'ailleurs, femme, et la sage-femme, les sages-femmes du territoire. On a eu la chance d'avoir un sage-femme quelques mois et qui est reparti sur un autre département pour des raisons personnelles, mais voilà, on a eu le plaisir d'avoir un homme avec nous à un moment donné.
Margaret.
Et au Cégide, du coup, ce sont des médecins hommes. Il y a eu un renversement depuis quelques mois. En effet, avant, c'était que des médecins femmes et actuellement, ce sont des médecins hommes.
Après, de manière globale, en France, depuis quelques années maintenant, les médecins sont de plus en plus des femmes et dans les années à venir, ça va être de plus en plus des femmes. De toutes spécialités confondues, pour le coup.
C'est ça, il y a une formation. Au niveau de la formation, il y a des recrutements féminins beaucoup plus importants.
C'est ça, en fait, les personnes qui réalisent des études de médecine sont de plus en plus des femmes. Donc, dans toute spécialité, que ce soit sur de la médecine générale, de la gynécologie, de la pédiatrie, enfin voilà. De manière globale, ce sont plus des femmes à partir de. Enfin, dans les années prochaines, ce sera majoritairement des femmes, en tout cas, que les patientes rencontreront.
sur alors on est sur un projet de santé des femmes. Ça a été une préoccupation. Dorothée nous a fait émerger, enfin nous a raconté qu'il était, il avait émergé un questionnement autour de la santé des femmes qui était un peu moins prise en compte par les femmes que les hommes a priori sur les questions de santé. C'est quelque chose que vous constatez et comment est-ce que vous, professionnels de la santé, vous intervenez sur sur l'accès aux soins, à la prévention et à l'accompagnement des femmes.
C'est vrai qu'il y a une égalité en fait de santé de genre hein, qui est connue. Les femmes sont confrontées à cela, bien sûr par rapport à ce qui avait été dit par rapport au quotidien, en effet par rapport à être occupé à prendre soin de son entourage et de sa famille. Et en effet, les femmes ont moins l'accès à la santé, aux soins, aux services. En effet, parce que les choses ne sont pas non plus favorisées telles quelles pour elles, en fait.
Il existe cependant des services en fait qui vous en êtes témoin en fait de tous ces services qui fonctionnent, que les femmes peuvent j'allais dire visiter ou se saisir de vos compétences pour pouvoir répondre aux questions, pour avoir un suivi. Malgré ça, il y a un travail de proximité qui est nécessaire pour rapprocher peut-être le soin des femmes. Alors, je vous en prie, ouais,
c'est vrai que moi j'ai une particularité par rapport à mes collègues, c'est que j'ai un service qui a une précision, qui travaille autour des victimes. À plus de 89%, en fin de compte, dans les victimes qu'on reçoit, si on est sur des violences conjugales, on reçoit des femmes. Ces femmes, alors, elles ne viennent pas pour la santé, elles viennent par rapport à des enquêtes, par rapport à tous les partenaires qui sont ici, les réseaux. C'est pour ça aussi que c'est très bien qu'on se retrouve tous ensemble. C'est que chaque réseau, que ce soit CDFF, l'AVED, IDVET, la POUSE, nous adresse aussi ces femmes. Elles passent d'abord par des partenaires qui sont sociaux, et après viennent vers la santé. Donc, on est vraiment quand même une branche un petit peu à part. On nous a invités parce que quand on parle de femmes, on parle aussi de violence. C'est quand même quelque chose qui est récurrent, qui est d'actualité et qui l'est de plus en plus. Et maintenant, ces femmes, elles parlent. Et c'est important de savoir qu'il y a des réseaux comme les nôtres, entre autres comme le CASEVA qui est sur l'hôpital, qui peut les accueillir.
Justement, sur ces questions, vous venez de le dire, ça parle de plus en plus. C'est un sujet qui arrive très régulièrement, alors soit dans les médias sur le devant de la scène, on pense à toutes les violences sexuelles qui sont de plus en plus dénoncées, qui sont de plus en plus médiatisées également, qui, je pense, doit donner aussi un exemple pour peut-être des femmes au quotidien de pouvoir parler aussi des violences subies. Ça participe à libérer la parole. Je pense au MeToo, je pense à toutes les histoires qui arrivent aujourd'hui sur le devant des médias.
Je pense que oui, effectivement, ça participe à libérer cette parole, comme vous dites. Ce qui est important aussi, c'est à nous de se faire connaître, c'est à nous d'être sur ces plateaux, c'est à nous d'aller auprès d'elles, parce que tout le monde n'a pas cet accès à la santé, effectivement. Tout le monde n'a pas, que ce soit financièrement, intellectuellement, tout ce que vous voulez. C'est compliqué, donc si nous, on ne va pas au-devant de tout ça, parfois, ce n'est pas elles qui vont venir. Mais je mets vraiment en place et l'importance de dire qu'on est une ressource pour la population aussi. Hein, mais voilà, ça pourrait être une des choses que je pourrais mettre en avant. Et puis même mes collègues, on travaille
Camille,
tout ensemble.
Hein. Ouais, Camille.
Pour compléter, on a parlé des violences sexuelles, mais il n'y a pas que les violences sexuelles. Effectivement, c'est quelque chose qui est de plus en plus mentionné dans la presse, même dans les conversations on va dire, de tous les jours. Mais il y a aussi les violences physiques, les violences psychologiques aussi, qu'on a tendance à sous-estimer, je pense. Et les violences aussi, on va dire, économiques. Hein. Une femme, tout à l'heure on parlait du travail, effectivement, le fait d'être indépendant, d'avoir un travail, d'avoir de l'argent, c'est important, parce qu'une femme qui n'a pas les moyens de pouvoir partir de chez elle, parce que effectivement le conjoint elle lui rapporte lui seul, on va dire, l'argent pour la famille, ben ça c'est important à prendre en compte aussi.
On l'évoquait tout à l'heure, le travail comme un outil de liberté, en fait, très clairement, oui.
Et alors du coup, je voulais revenir aussi, nous en centre de santé sexuelle, en fait, nos missions de consultation médicale sont plutôt réservées aux mineurs et aux personnes qui n'ont pas de couverture sociale, mais nous recevons aussi les personnes qui sont sorties d'un parcours de soins et qui ont besoin de reprendre confiance dans le milieu médical, gynécologique, et ça permet déjà de faire un lien pour après. Donc comme Camille travaille aussi à l'hôpital, quand elle vient consulter chez nous, elle fait le lien avec l'hôpital pour après que les femmes puissent continuer leur suivi. Et en fait, nous touchons beaucoup, nous, plutôt les adolescents, et les jeunes en faisant de la prévention dans les écoles pour faire connaître déjà le centre, nos missions, mais surtout échanger avec eux autour de la vie affective et relationnelle, faire de la prévention par rapport au consentement, grossesse non désirée, IST, etc., comme fait aussi Margaret au niveau du Cégide. Et puis bah, Sabrina, au niveau de la PMI, tu vas pouvoir prendre la parole. Toi, c'est par rapport à la grossesse, où tu vas toucher aussi les femmes.
Oui, donc moi je suis les femmes essentiellement au moment de leur parentalité, en anténatal et en postnatal aussi. Je vais accompagner des femmes qui n'ont pas accès à la santé parce qu'elles n'ont pas de sécurité sociale, parce que du coup les libéraux ne les reçoivent pas forcément, parce qu'elles sont dans un parcours un peu compliqué, et je vais les aider en fait à organiser leur suivi, à faire en sorte de prendre soin d'elles au moins déjà au moment de la grossesse, parce qu'on sait que c'est une période un peu particulière de vulnérabilité aussi, et je vais essayer aussi de les mettre en lien en fait avec les partenaires pour que elles puissent avoir un suivi global en fait, et qu'elles puissent reprendre leur suivi gynécologique par la suite. Souvent j'insiste sur ça parce que souvent elles voient un gynécologue uniquement au moment de la grossesse, et quand je leur dis et avant et après, rien. Donc soit ça fait très longtemps qu'elles n'ont pas vu de gynécologue, ou soit elles n'en ont jamais vu de leur vie, si ce n'est pour la grossesse. Et donc c'était l'intérêt aussi des ateliers qu'on a pu animer sur la santé sexuelle. C'était aussi tout ce qui concernait la prévention en matière de gynécologie. Donc tous les examens à faire autour du dépistage du cancer du col de l'utérus, du cancer du sein avec les mammographies, etc. Et c'était intéressant de pouvoir leur apporter ces informations.
Camille, j'ai vu que vous empariez du micro. En tant que médecin, vous aviez.
Non, mais c'est justement, en fait, avec Marie-Jo, on a discuté ce midi, en fait, du fait que la santé sexuelle, ça commence très tôt. Finalement, ça commence dès la puberté, donc dès l'enfance. Et ça va jusque tard dans la vie de la femme, puisque la ménopause en fait partie aussi. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser vie sexuelle plutôt jeune femme, mais non, en fait, c'est vraiment de l'enfance, l'adolescence, la vie de femme adulte, et puis par la suite aussi. La ménopause, etc. Donc c'est important de prendre en compte pas que la jeune femme, mais la femme
tout au long de sa vie. Ce que j'entendais dans ce que disait Sabrina, c'est qu'en fait au moment de la grossesse, il y a un passage quasi obligatoire par un suivi médical, et à ce moment-là, pour certaines, c'était l'occasion d'enclencher un parcours médical beaucoup plus large que uniquement celui lié à la grossesse.
Ouais, c'est exactement ça.
C'était un prétexte.
C'est-à-dire que
Sabrina cherche des prétextes.
un peu prétexte. c'est le moment où on va pouvoir les toucher, parce qu'au moment de la grossesse, elles ne prennent pas soin que d'elles. Elles prennent soin d'abord de leur enfant à naître, et du coup c'est le moment où aussi on peut enclencher des choses pour elles. C'est-à-dire que prendre soin d'elles, c'est aussi prendre soin de son enfant.
Ouais. Margaret, ouais, j'ai vu que vous étiez emparée du micro. Oui, oui.
Du Cégide, puisque le Cégide, ça ne parle pas. En fait, c'est le centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic du VIH et des hépatites des IST, qui se trouve à l'hôpital d'Evreux, au rez-de-chaussée. Et en fait, on travaille très en lien avec nos partenaires, donc le Centre de santé sexuelle et puis le CASEVA. En effet, nous, nos chiffres montrent qu'on reçoit beaucoup plus d'hommes, ce qui peut paraître étonnant, mais du coup, ça peut s'expliquer par rapport aussi à ce qu'on propose au Cégide. Donc, on a différentes missions qui sont en lien, en effet, pour le dépistage de toutes les IST, infections sexuellement transmissibles, et aussi des outils de prévention, donc la vaccination en lien avec certaines IST, l'hépatite A, l'hépatite B et le papillomavirus. Et aussi, on peut proposer aussi des outils de prévention avant un risque sexuel, donc qui s'appelle la PrEP. Et en effet, on a principalement des hommes qui se saisissent de cet outil de prévention. Et on a aussi une prévention TPE, qu'on appelle traitement de post-exposition, après avoir eu un risque également. Et ça concerne toute la population. Et nous avons aussi des missions de contraception, mais on va plutôt orienter les jeunes femmes mineures auprès du CSS. Voilà.
Du CSS, c'est-à-dire
Centre de santé sexuelle où travaille Marie-Jo, Camille, et puis enfin, en lien avec Sabrina.
Non, c'est parce que je suis un peu moins agile que vous sur les abréviations hein, et les sigles. Même si on l'a une fois, des fois, j'ai besoin de précision. Aujourd'hui, on parle de santé des femmes. Vous l'évoquiez que c'est pas toujours la préoccupation première des femmes, que parfois c'est à travers les enfants qu'il y a un premier, une première prise de conscience d'accompagnement sur la santé féminine. Globalement, une femme qui souhaite rentrer dans un processus de soins pour une raison de prévention, pour une raison de soins ou peu importe, couverture ou pas couverture sociale comme l'évoquait Sabrina, quelle est la porte d'entrée la plus évidente? Parce que là, on a plusieurs organismes, on se dit, ah bah ça y est, alors on entend bien que vous bossez en relation, mais quelle est la porte qu'on pousse? Une femme qui aujourd'hui avait peut-être perdu lien avec un suivi de santé ou suite à des problématiques, quelle est la première porte à pousser? Quelle est la porte la plus accueillante, j'ai envie de vous dire?